RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Mardi prochain auront lieu des élections législatives en Israël. Benjamin Netanyahou brigue un troisième mandat consécutif, le quatrième mandat de sa carrière, puisqu'il a déjà été Premier ministre dans les années 90. Bibi, comme le surnomment les Israéliens, est un homme de droite qui a fait de la lutte contre le programme nucléaire de l'Iran sa priorité. On l'a encore constaté, là tout récemment, lors de son discours polémique devant le Congrès américain à Washington. Benjamin Netanyahou, enquête sur un phénomène politique. C'est un grand reportage signé Nicolas Falaise. Nicolas, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Jerusalem is not a settlement. It's our capital.
Jérusalem n'est pas une colonie, c'est notre capitale.
Well, let me show you.
Je vais vous montrer.
Brought a diagram.
Je vous ai apporté un diagramme.
Here's a diagram.
Le voici.
This is a bomb.
Ça, c'est une bombe.
This is a fuse.
Ça, c'est le détonateur. Et si l'Iran prévoit de construire une bombe atomique, cette bombe doit être remplie d'assez d'uranium enrichi. Mesdames et messieurs,
militant Islam's ambition to dominate the world,
la volonté de l'islam radical de dominer le monde peut sembler folle. Mais c'était le cas aussi d'une autre idéologie fanatique parvenue au pouvoir il y a des décennies. Les nazis croyaient en une race supérieure. Les islamistes radicaux croient en une religion supérieure. Avant de lever les restrictions, le monde devrait demander trois choses à l'Iran. 1. Arrêter ses agressions contre ses voisins au Moyen-Orient. 2. Arrêter de soutenir le terrorisme partout dans le monde. 3. Cesser de menacer de destruction mon pays, Israël, le seul et unique État juif.
Ces mots, Benjamin Netanyahou les a prononcés entre 2010 et mars 2015. Devant le lobby pro-Israël AIPAC aux États-Unis, à l'Assemblée générale de l'ONU ou tout récemment devant le Congrès américain à Washington. Tel Aviv, Israël, le quartier bohème, branché et alternatif de Florentine. Ici, nous avons rendez-vous avec Noy Alouche, un musicien israélien qui, depuis plusieurs années, remixe des discours politiques sur fond de musique techno. Énorme succès sur Internet. La semaine dernière, quelques heures seulement après le discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain, Noy Alouche mettait en ligne ce remix parodique dont il nous livre la recette.
Quelquefois, c'est très difficile. Ce discours dure à peu près une heure et je dois d'abord le découper en morceaux et trouver les mots qui fonctionnent. Le plus simple, c'était de commencer par isoler tous les passages où il prononce le mot « Iran ». Une centaine de fois environ. Il dit le mot Iran sur tous les tons. J'ai pris tout ça et je l'ai mis en boucle. Puis j'ai commencé à travailler sur la vidéo.
Est-ce que votre travail, votre remix, exprime quelque chose sur la nature des discours de Benjamin Netanyahou ?
Oui, parce que pour remixer un politicien, il faut que la matière première soit bonne. Avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de charisme ou qui ne sait pas s'exprimer, c'est difficile d'obtenir quelque chose de convaincant où les mots et la musique se combinent. Mais avec quelqu'un comme Netanyahou, et surtout avec ce genre de discours, quelque chose de fort à propos de l'Iran et de la situation au Moyen-Orient, j'avais une matière vraiment très cool pour travailler.
Benjamin Netanyahou, champion des discours percutants et des messages calibrés qu'il martèle à l'étranger comme chez lui en Israël. Mais la campagne électorale est-elle en train de révéler une certaine usure de la méthode Netanyahou ? La liste de son parti, le Likoud, est concurrencée par celle du centre-gauche, dont les meetings, comme celui-ci, attirent des Israéliens et des Israéliennes qui rêvent de changement. Sarah est une trentenaire, militante, bénévole pour la principale liste d'opposition.
Pour ceux qui connaissent la série House of Cards, c'est Frank Underwood en pire. C'est-à-dire que c'est la personne qui, pour moi, c'est un politicien dans l'âme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est très charismatique, il sait ce qu'il fait, il calcule ce qu'il fait. Mais il a une vision stratégique pour lui, tactique pour le pays. C'est-à-dire à court terme pour le pays et à très long terme pour lui. Moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui ne voit que ses intérêts. J'ai envie d'avoir quelqu'un à la tête de ce pays qui voit les intérêts du pays et du peuple d'abord. Je vais vous donner un exemple très précis qui vient de sortir. Avant que la soirée ne démarre, il y a eu une annonce qui disait que Netanyahou venait dire que son discours de Bar-Ilan de 2009 n'était plus valable. C'est-à-dire que quand il a annoncé qu'il était pour deux États, pour deux nations, ça y est, c'est caduque. C'est pas une vision pour le pays si au bout de 5 ou 6 ans, la personne qui est à la tête de l'État peut dire « bon, bah, ça y est, ce que j'ai déclaré il y a quelques années, c'est plus valable ». Non, il a clairement pas de vision pour l'État, il n'a de vision pour lui-même. Il a annoncé ça pour se rapprocher de sa droite dure. Et voilà, c'est de la tactique politicienne, mais c'est pas une stratégie pour l'avenir.
Lui non plus ne votera pas Netanyahou aux élections législatives. Écrivain israélien, traduit dans plusieurs dizaines de langues, mais aussi scénariste pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée, Edgar Keret nous a donné rendez-vous dans un café de la rue Dizengoff à Tel Aviv.
Je pense que Netanyahou est un survivant en politique. Il fait alliance avec les partenaires qui lui permettent de conserver le pouvoir. Le problème, c'est lorsque ses partenaires de droite, plus extrémistes que lui, se renforcent, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du Likoud. Là, il fait des compromis avec eux. Donc je pense que beaucoup de ses actions ne viennent pas vraiment de lui, mais qu'elle vise à satisfaire ses partenaires politiques.
Vous avez voyagé avec lui en Europe il y a quelques années pour le journal à Aretz. Quel souvenir en gardez-vous ?
Je dois dire qu'à l'époque, déjà, il était obsédé par l'Iran, par la menace iranienne. Il refusait de parler du conflit israélo-palestinien et de quoi que ce soit d'autre. J'ai nettement eu le sentiment qu'il était un orateur brillant, mais que l'action ne l'intéressait pas vraiment. Il ne veut pas parler des problèmes sociaux, alors qu'il pourrait changer cela. Il ne veut pas parler des problèmes de racisme, alors qu'il pourrait changer cela. Il ne veut pas parler de l'économie, alors qu'il pourrait changer cela. Il préfère parler de l'Iran parce que c'est là que ses talents d'orateur entrent en jeu et il peut alors prononcer le plus fabuleux des discours sur le prochain Holocauste. Mais au moment où vous lui dites « et si tu faisais quelque chose », alors il change rapidement de sujet.
Edgar Keret, vous êtes engagé à gauche. Vous vous êtes exprimé l'été dernier contre la guerre entre Israël et les groupes armés de Gaza. Est-ce que vous reconnaissez une qualité au Premier ministre Benjamin Netanyahou ?
Je reconnais une seule chose. Le gouvernement sortant est le gouvernement le plus raciste, le plus à droite et le plus antidémocratique de l'histoire d'Israël. Et Netanyahou y fait figure de gauchiste. Vous savez, pendant la guerre de Gaza, certains ministres ont appelé à envahir Gaza. Des gens ont utilisé des expressions comme « il faut raser Gaza et en faire un parking ». Ces gens ont prétendu que par lâcheté, Netanyahou n'était pas allé jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est par manque de courage ou par sens des responsabilités, mais au moins Netanyahou n'a pas écouté ses voix au sein de son gouvernement. C'est la seule chose positive que je peux dire de lui.
Seulement le Likoud, seulement Netanyahou proclame les immenses affiches électorales du Premier ministre sortant sur les murs des villes israéliennes. Nous sommes au Souk à Carmel de Tel Aviv, grand marché couvert où il n'est pas difficile de rencontrer de fervents partisans du Premier ministre. C'est le cas de Steve, un dentiste de 35 ans qui porte la kippa des juifs religieux.
Pour moi, je suis en admiration devant M. Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est un meneur, c'est une personne très intelligente à qui on peut faire confiance et avec beaucoup de patience d'un côté et de l'autre côté de force.
On lui reproche aussi de parler beaucoup d'Iran et un peu moins des questions économiques et sociales.
Vous avez raison sur ce point. Le problème, c'est que l'Iran, en ce moment, c'est très important avec la bombe atomique. Tout le monde a peur de l'Iran, car l'Iran, c'est quand même un pays qui n'a peur de rien, qui ne respecte aucune règle aujourd'hui. Donc je pense que c'est une priorité par rapport à la situation économique du pays. Je pense que l'Iran, aujourd'hui, est une priorité par rapport à la bombe atomique. Et à mon avis, au niveau économique pour Israël, Benjamin Netanyahou va s'en occuper, quoi qu'il arrive, très rapidement. Mais le plus important aujourd'hui, c'est la sécurité d'Israël et des Israéliens et tout ce qui entoure Israël, bien entendu. Car si demain l'Iran décide d'envoyer la bombe atomique sur Israël, il n'y aura plus Israël, il n'y aura plus tous les pays arabes autour. Donc ce n'est pas uniquement pour Israël, mais pour la sécurité du Moyen-Orient, en gros.
Avec ce discours sécuritaire, on lui reproche aussi d'abîmer la relation particulière entre Israël et les États-Unis, le premier allié du pays. Qu'en dites-vous ?
C'est vrai que ça peut détériorer la relation avec les États-Unis, mais une fois de plus, Israël est un petit pays et nous, on doit penser à notre sécurité avant tout. Pour moi, les États-Unis ne sont pas importantes. Israël doit faire ce qu'il doit faire pour être en sécurité et pour vivre en paix. Et après, ils verront avec les États-Unis ce qui se passera. Mais nous, on croit en Dieu et on n'a pas peur ici, quoi qu'il arrive.
Donc le 17 mars, vous votez Bibi Netanyahou ?
À 100%. J'aime Bibi Netanyahou autant que j'aime ma femme, comme ça, vous savez. Voilà.
Benjamin Netanyahou, 65 ans, brigue un quatrième mandat. Nationaliste intransigeant, son discours sécuritaire fait écho à son parcours personnel. Lui, l'ancien membre des commandos d'élite de l'armée israélienne, lui qui a perdu un frère au combat. Un épisode fondateur selon Boaz Bismuth, journaliste à Israël Hayom, le premier quotidien du pays.
Ce monsieur a quand même perdu un frère. Il a quand même perdu un frère qui était un héros. Comme lui dans une unité d'élite, Sayeret Matkal, son frère était un des chef de l'opération Entebbe avec l'avion d'Air France qui était détourné en Ouganda.
En 1976.
Voilà, et je pense que ça c'est quelque chose aussi qui façonne quand même une famille qui a perdu un être. Et son frère c'était quand même le pas dire le fils préféré, mais c'était quand même l'enfant doué de la famille. Peut-être même celui qui avait la destinée peut-être. Quand vous avez un frère qui est autant une lumière, et qui est quand même la référence, vous allez toujours être dans l'ombre de votre frère. Et c'est pour ça que je pense que dans leur subconscient, Netanyahou, tous les matins, doit quand même se prouver qu'il est aussi bon, pas que Ben-Gurion, pas que Begin, pas que Herzl, mais que son frère Yoni. Je pense que ça, c'est un aspect très très important dans la personnalité de Netanyahou.
Ça, c'est la conférence des White River.
Avec Bill Clinton.
Bill Clinton.
Benjamin Netanyahou. C'est vous
c'est lui,
à côté de Benjamin
moi.
Netanyahou.
Oui. C'est l'histoire.
Dans son bureau, Zalman Chobal nous montre les photos encadrées qui retracent une carrière bien remplie. Ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, élu 4 fois député à la Knesset, membre du comité central du Likoud. Zalman Chobal a travaillé avec Benjamin Netanyahou.
Sans doute, le problème de la sécurité est beaucoup plus important parce que sans un État d'Israël, on ne va pas parler des choses de logement ou d'éducation, etc., etc. Et nous sommes dans une situation avec l'Iran. Ça, c'est le vrai problème. Ce n'est pas quelque chose imaginaire. Ça veut dire n'importe qui sera le prochain premier ministre d'Israël. Le problème iranien sera numéro un, sans doute. Le Moyen-Orient est dans un état chaotique et on ne peut pas se sentir comment c'est la vie normale, la vie quotidienne, rien n'a changé. Israël doit être préparé pour cela. Mais quand on fait des rapproches contre Netanyahou, pourquoi tu parles tout le temps sur cela? Il parle tout le temps sur cela parce qu'il est convaincu, vraiment convaincu. Ça, je peux vous dire, je peux vous assurer de mes conversations avec lui. C'est pas les élections, c'est pas la politique. Il sent véritablement que l'avenir de l'État d'Israël et du peuple juif, c'est sur ses épaules.
Je ne peux qu'appeler les dirigeants du monde à ne pas répéter les erreurs du passé, à ne pas sacrifier le futur au nom du présent, à ne pas ignorer les agressions dans l'espoir d'une paix illusoire. Mais je peux vous garantir ceci, l'époque où le peuple juif restait passif face à des ennemis génocidaires, ces jours sont terminés.
Cette référence fréquente à la Shoah dans les discours de Benjamin Netanyahou est loin de faire l'unanimité dans son propre pays. L'universitaire Hana Yablonka enseigne l'histoire juive et l'histoire d'Israël. C'est une spécialiste de la Shoah.
Both my parents are survivors of the Holocaust.
Mes deux parents sont des survivants de la Shoah. Bien sûr, la plupart des Israéliens et la majorité des Juifs sont traumatisés. Nous gardons à l'esprit le traumatisme de la Shoah, naturellement. J'ai grandi sans grands-parents, sans oncle. Ma mère porte un numéro tatoué sur son bras. Donc c'est une partie de mon vécu, de mon histoire, mais c'est un souvenir. Ce n'est pas la boussole qui détermine mes choix existentiels.
decide my existential decisions.
La situation des Juifs en 1942 ou 43 n'a rien à voir avec la situation des Israéliens aujourd'hui. Avec nos bombes atomiques et la plus grosse armée du Moyen-Orient, une économie très forte et la souveraineté.
And sovereignty. What does this has to do with Auschwitz and the Shoah?
Quel rapport avec Auschwitz et la Shoah? En 6 ans au pouvoir, Bibi Netanyahou n'a pas pris une seule décision concrète. Ah, il est très bon avec les mots, il est très fort en anglais, mais il ne nous a jamais dit ce qu'il fallait faire concrètement, ni ce qu'il voyait à l'horizon. Il ne croit pas à la force de l'action, il croit au vide des mots. Et c'est cela que le discours sur la Shoah produit sur nous. Et sans espoir, sans vision positive de l'avenir, je ne crois pas qu'une société peut continuer à vivre.
Benjamin Netanyahou enquête sur un phénomène politique. Reportage à Tel Aviv de Nicolas Falaise. Réalisation Marc Minatel.
Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RFI en Israël pour ces législatives israéliennes de mardi prochain. C'est Benjamin Netanyahou que l'on entend chanter à la fin de votre reportage.
Oui, c'était en France en 2012 à Toulouse, quelques mois après l'assassinat dans cette ville de 4 personnes, dont 3 enfants dans une école juive. Benjamin Netanyahou chante Am Israël Chai, ce qui veut dire en hébreu le peuple d'Israël est vivant.
Alors, à quelques jours des élections législatives du 17 mars en Israël, Benjamin Netanyahou peut-il espérer, oui ou non, le 4e mandat qu'il sollicite?
Les tout derniers sondages ne sont pas bons pour la liste de son parti, le Likoud. La dynamique se situe clairement du côté de la liste de centre-gauche, une liste qui a choisi comme nom le camp sioniste et qui rassemble le parti travailliste de Yitzhak Herzog et le parti centriste de Tzipi Livni, ancienne ministre des Affaires étrangères notamment. Mais attention, on est en Israël, il s'agit d'un système parlementaire dans lequel il faut bâtir une coalition pour gouverner. Le score des autres partis sera donc déterminant pour dessiner les contours du prochain gouvernement, pour déterminer aussi le nom du prochain Premier ministre.
Alors, l'élection a eu lieu dans un contexte particulier. Benjamin Netanyahou s'inquiète d'un mauvais accord avec l'Iran sur le nucléaire et les négociations sont en cours.
Oui, et c'est pour cela qu'il a répondu la semaine dernière à l'invitation des élus républicains du Congrès américain pour prononcer à Washington un discours alarmiste de plus sur les dangers, selon lui, d'un accord trop favorable à la République islamique d'Iran.
Et finalement, c'est un discours qu'on lui reproche en Israël.
On ne lui reproche pas de s'inquiéter des progrès nucléaires de l'Iran, c'est vraiment une préoccupation ici. Mais on lui reproche d'en faire trop, de fragiliser, d'embarrasser Barack Obama et donc d'endommager la relation entre les États-Unis et Israël. On lui reproche également d'avoir utilisé ce discours à l'étranger pour sa campagne électorale en Israël. Enfin, ici, il est aussi critiqué pour ne pas parler des autres sujets. Le coût de la vie, le logement, l'éducation, les difficultés quotidiennes des Israéliens dans un pays qui affiche à la fois de bonnes performances économiques et des inégalités importantes qui se creusent.
Alors que répond Benjamin Netanyahou face à toutes ces critiques?
Il a été très clair il y a quelques jours, déclarant en substance « On me parle du coût de la vie en Israël, moi je parle de la vie tout court en Israël ». Et puis cette semaine, il a brandi un autre argument, celui d'un vaste effort international visant à faire tomber le gouvernement Likoud en Israël. Fin de citation.
Alors cette dernière question, le conflit israélo-palestinien, dans tout ça, on en est où?
Durant les 6 dernières années, il n'y a eu que de brèves périodes de négociations entre Israël et les Palestiniens. La colonisation des territoires s'est poursuivie sous les gouvernements Netanyahou. Et là encore, cela suscite parfois des critiques, l'absence de perspectives de paix, mais surtout peut-être le fait que la politique intransigeante du Premier ministre israélien risque d'isoler diplomatiquement l'État hébreu.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter dans son intégralité sur RFI.fr. Nicolas Falaise, merci beaucoup. Bonne journée.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose...